Nee.
Win it. Will it. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Je lui ai dit, je vous le dis. Je me suis ennuyé de jaser avec Catherine Loubier. J'étais malade la semaine passée, mais on se reprend. Catherine, comment ça va?
Très bien, merci. Et toi?
Oui, ça va bien. Écoute, ça brasse énormément. Merci d'être là. Merci d'accepter de jaser avec nous comme ça chaque semaine. Je pense que c'est pertinent. Dans le contexte, là, j'aime bien jaser avec des gens qui sont bien branchés un peu partout sur la planète. Puis, jasons-en. Là, le sujet pas mal du jour slash de la semaine, c'est évidemment la guerre avec l'Iran. Et, disons, par la force des choses, l'essence, le prix du gaz, le pétrole, le détroit d'Ormuz, c'est compliqué tout ça et on réalise que ça ne pourra pas durer. T'sais, en fait, si ça dure, c'est de très mauvaises nouvelles pour tout le monde.
Oui, mais je pense pas que ça va durer. Si on écoute le président américain, évidemment, l'Iran est affaibli considérablement dans ses infrastructures, dans son armée, dans ses installations militaires, et donc à un moment donné, il y a un essoufflement. L'attention est vraiment concentrée sur ce fameux détroit d'Ormuz parce que les bateaux ne peuvent plus sortir le pétrole qui va, il faut le dire, majoritairement vers les pays de l'Asie, mais ça a un impact direct sur le prix pour les Canadiens.
Sur la reste.
Ouais, c'est ça. Puis Donald Trump, ce matin, était avec le premier ministre irlandais en conférence de presse, hein, c'est la Saint-Patrick.
Ouais.
Il a commenté et il n'était pas content. Il n'était pas content, le président. Là. Il a reçu des fins de non-recevoir sur son appel à l'aide des pays qui pourraient venir l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz puis rétablir un peu l'ordre dans la région. Il s'est fait dire non par la plupart d'entre eux.
Puis ça, là-dessus, des fois, là, de ce temps-là, j'ai de la misère là, à le suivre. Le gars part en guerre seul. Le gars décide d'attaquer avec Israël. Je dis seul, évidemment, avec Israël. Personne n'est trop consulté. Puis là, soudainement, venez nous aider. Tu sais, hier, c'était particulier. Là, dans le même 10 minutes de conférence de presse, il dit « Venez m'aider ». Puis il finit en disant « Je veux pas vraiment que vous venez m'aider. Je fais juste vous tester. » Tu sais, c'est on dirait qu'il veut pas demander de l'aide, mais il a peut-être besoin d'aide. Donc, c'est sûr que pour la communauté internationale, là, c'est peut-être dur à jongler, là.
Oui, bien là, de toute façon, ce matin, il a dit « j'en veux pas de votre aide
».
En fait,
ça.
J'ai compris, vous voulez pas vous impliquer. Oui, c'était votre test, mais vous faites une erreur stupide. Il est pas content. Il fait augmenter les dépenses de chaque pays de l'OTAN. Hein. On le sait, il a mis de la pression depuis quelques années sur les pays de l'OTAN. Et là, quand il y a un conflit, lui, il se dit « écoutez, c'est la plus grande menace d'un régime terroriste au monde. C'est un régime qui enrichit de l'uranium et qui est sur le bord. En tout cas, on verra la vérité un jour. » Mais d'avoir une arme nucléaire, selon certains. Et il se dit, ils ont assassiné pas deux mille, mais plus de 30 000 de leurs propres citoyens de manière sauvage. Ils ont des proxys. Donc, où on en est? Bien, les proxys, là, le Hezbollah, les Houthis, le Hamas sont affaiblis, mais ne sont pas neutralisés, en fait. Hein? Ils sont très actifs, par exemple, dans le sud du Liban en ce moment.
Est-ce qu'on peut éliminer les proxys? T'sais, moi, je ne vois pas ça parce que c'est des sous-groupes, c'est des gens cachés.
S'ils n'ont plus d'argent, ils sont éliminés. Je veux dire, ils sont financés à 100 % à coût de centaines de millions par l'Iran. Donc, c'est une question d'argent, mais l'Iran a des alliés aussi, puis l'Iran n'est pas... Il y a eu, j'allais dire, un changement. On a tué l'ayatollah, mais il n'y a pas de changement de régime pour l'instant.
Ouais.
Et on n'a aucune preuve, en fait, que les attaques ont affaibli directement la capacité de bombes nucléaires de l'Iran. Bien sûr, ils sont très affaiblis dans leur équipement militaire.
Mais ça se reconstruit, tout ça. T'sais, moi, c'est parce que avec qui je me souviens pas, je pense que c'est avec Jean-François Lisée, on jasait cette semaine. Puis je me disais, je vois pas comment on peut changer ce régime-là si on ne rentre pas boots on the ground. Et, mais... et là, tu viens de t'enliser. Là, si tu débarques l'armée...
Mais c'est sûr, tu peux pas changer. Puis écoute, il faut se rappeler aussi, on prend l'exemple de l'Irak, on prend l'exemple de l'Afghanistan. On a été le Canada dans une opération pendant 10 ans en Afghanistan, tu sais. Et l'Afghanistan est retourné au régime taliban et à la loi Shia. Puis, tu sais, il faut, comme tu le dis, être impliqué de manière significative pendant des années pour changer véritablement un régime. Si ça ne vient pas du peuple humain, je pense que M. Trump espérait ou espère encore que les Iraniens pourraient en arriver à enlever le pouvoir religieux pour mettre un pouvoir démocratique. Ça se fait pas en claquant des doigts. Alors,
on a déjà essayé ça. Hein? On a joué dans le film.
Ben, c'est ça. Puis on a déjà essayé aussi d'enlever un tyran en Irak. Et puis on a vu ce que c'était la suite. Et on n'a pas été capable de produire des preuves non plus sur les armes de destruction massive. Mais le ministre Leblanc et l'administration Carney ont été confrontés aussi. Est-ce qu'eux joindraient un effort dans le détroit Hormuz? Et là, c'est la danse du « la porte est mi-ouverte, mi-fermée ». Ouais. C'est vraiment la stratégie canadienne à cet égard-là. Il voulait, M. Leblanc a fait une entrevue, le ministre Leblanc, avec Radio-Canada, puis tu voyais qu'il voulait vraiment cocher la coche et puis il voulait faire en sorte que les Américains, Jonathan Greer, qui est le négociateur, reçoivent un article de médias et qu'ils lisent que le ministre a dit « Non, on n'est pas en discussion sur la gestion de l'offre. Non, on n'a pas fermé la porte à s'impliquer dans le détroit d'Hormuz. » Puis en passant, M. Greer parle français puis il est extraordinaire. Ah, donc, tous les mots-clés ont été cochés pour que M. Greer reçoive le...
Puis tu vas me dire que c'est de la stratégie, puis je comprends tout ça, mais c'est quand même particulier là, de faire passer le message via une entrevue pour que le monsieur comprenne que lui ne veut vraiment pas toucher à la gestion de l'offre. Encore là, il y a de la politique aussi. On a déjà aussi joué dans un film où on disait on ne touchera pas à ça. Il y a eu des concessions qui ont été faites. C'est pas clé, mais juste avant d'aller, tu sais, c'est... concernant la stratégie canadienne, t'as Mark Carney aussi la semaine passée qui a commencé avec « Nous allons appuyer nos alliés sans concession » et qui a fini 3 jours plus tard en disant « Jamais nous n'allons aller nous impliquer militairement ». T'as eu aussi l'histoire de la base canadienne attaquée et il a fallu un article de journal pour l'apprendre. C'est pas non plus très concret. Qu'est-ce que va faire le Canada? C'est dur à dire, là.
Ben, c'est ça. Donc, je pense qu'il adopte un peu la stratégie Trump, hein? la stratégie de confusion. Une journée, c'est X, l'autre journée, c'est Y, puis à la fin, personne ne sait trop quelle est sa position sur l'enjeu dans son ensemble de l'Iran, puis les sous-questions, comme par exemple l'implication autour du détroit d'Hormuz. Donc, c'est vraiment mi-ouvert, mi-fermé comme porte. Et puis, et c'est ça. Ils ne veulent pas déplaire, donc ils continuent en prenant des positions confuses. C'est vraiment ça.
Quand Leblanc dit on n'a pas été informé des frappes, puis d'ailleurs, pas que Leblanc, il y a beaucoup de pays, là, j'ai entendu des Européens aussi le dire, on n'a jamais été informé de ça. Je comprends.
C'est leur stratégie.
Mais je comprends que Trump, mais est-ce que c'est vraiment possible?
Oui, j'ai toujours dit que non. Les pays du G7 se parlent. Donald Trump et Mark Carney se parlent. Voyons donc. C'est la position qu'ils ont décidé d'adopter, puis ils s'en foutent si c'est pas vrai, parce que l'autre, il le fait aussi.
Ouais. Fait qu'on peut dire tout le monde n'importe quoi.
C'est l'ère du « on dit n'importe quoi », on laisse toutes les portes mises ouvertes, on se commet pas, et puis on continue notre petit bout de chemin. Pendant ce temps-là, il ne provoque pas Donald Trump, parce que même si on faisait des concessions aujourd'hui, tu sais, dans la négociation de l'accord de libre-échange, qui nous garantit que ça va nous acheter la paix avec l'administration américaine? C'est pas les règles ordinaires là, qui s'appliquent. Alors, pour l'instant, on a plus de 90% de nos biens qui sont en libre-échange, là, sans tarif, entre les deux pays. Visiblement, Donald Trump donne du crédit à ce bloc de libre-échange nord-américain. Sinon, il lui aurait fait mal, mais non, au contraire. On est toujours sous l'ALENA, le CUSMA, ou en tout cas le nouvel ALENA, là. Et on a été exclus des tarifs globaux de 15%. Donc, c'est pas pire en ce moment, là. Donc, il n'y a pas... Tu le vois, là, M. Leblanc, il n'y a aucune urgence dans son visage, là.
Non, c'est vrai, je l'ai trouvé quand même... il faisait même des blagues. Tu sais, je l'ai trouvé quand même assez relax hier dans son entrevue. Je ne sais pas si tu es à New York, mais tu es en direction ou tu es déjà là-bas?
Demain matin.
OK, demain matin. Tu vas aller faire ton tour à New York, puis on y reviendra pour un événement avec Pierre Poilievre. Mais parle-moi de New York un peu. Je sais que tu voulais me jaser un peu de mon maire préféré en Amérique du Nord, Zoran Mamdani. Exact. Qui a fait... Écoute, ce que tu m'as écrit, je vais te laisser le dire, là, mais moi, ça m'a... Ce gars-là, est-ce qu'il fait exprès pour toujours picosser puis aller plus loin ou il est naïf de nature puis c'est juste un grand cœur qui s'exprime?
Il y a un agenda qui n'est pas un agenda de sauver la ville de New York, hein, ça c'est sûr.
C'est de la changer.
Oui, c'est de la changer, tu sais. Puis ce matin, même s'il n'a pas pu s'empêcher, c'est la Saint-Patrick. Il est dans un événement sur la Saint-Patrick et il a comparé la situation des Irlandais au génocide. Il appelle ça le génocide en Palestine.
Wow.
Donc, oui, exactement. Et donc, il a pris l'événement de la Saint-Patrick pour dénoncer le silence, il dit, là, de beaucoup de personnes sur la guerre Israël-Hamas. Ça ne s'invente pas, là, écoute. T'sais, ça n'a rien à voir avec l'Irlande. Là.
Non, la célébration. C'est deux époques, deux situations complètement différentes, ça n'a rien à voir. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Comme tu dis, moi, je peux pas voir là-dedans quelque chose de...
C'est fatigant. Ça va venir vieux bien vite.
Ben oui, puis je pense aux Irlandais. Aujourd'hui, les Irlandais, c'est leur journée. C'est des gens fiers, puis c'est des gens qui, malgré qu'il y a des Irlandais qui n'ont jamais mis un pied en Irlande, t'sais, sont très attachés à leurs racines, très attachés à leurs familles ancestrales. C'est sûr qu'il y a des Irlandais qui frappent dans les murs à New York aujourd'hui là, à entendre des affaires.
Oui, puis on retombe dans les affaires de wokisme. Là, c'est ça. Puis il n'est pas sorti du bois, lui, il y a 5 jours à peu près. On avait parlé du budget Mamdani. C'est son premier budget qui bat des records d'endettement. Puis bon, on le sait, il veut augmenter les taxes sur les riches, augmenter les taxes sur les propriétés. Il y a pas mal de monde à New York qui ont décrié ça en disant que ça va être une catastrophe totale. On sait qu'il y a les mains liées parce que la gouverneure, il y a besoin d'elle. Ouais. Il n'y a pas les pouvoirs puis elle est en réélection. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, Moody's a officiellement changé les perspectives sur les finances de la ville de stable à négatif.
Oh!
Eh oui. Et l'étape suivante, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Moody's, pourrait être la dégradation de la cote de crédit de la ville et ça augmenterait le coût d'emprunt d'argent pour les opérations quotidiennes. Donc, encore plus de déficit. Donc, ça veut dire... Et Moody's réagit parce qu'il dépense plus que les revenus qui rentrent. Il ne faut pas oublier, il y a un exode fulgurant. Hein? New York aurait perdu 111 milliards de revenus bruts ajustés au cours de la dernière décennie à cause des résidents qui déménagent dans les autres États à cause de la taxation. Hein? Il y a 1 million de New-Yorkais qui sont partis pour d'autres États depuis 2020. Alors, ça sent la catastrophe de plus en plus. Moi, je trouve ça complètement bouleversant.
Puis moi, qui va là à chaque année, là, puis là, ça fait un certain temps que je suis allé l'été passé, puis dans les 3-4 dernières années, même avant Mamdani, je trouvais que la ville... C'était dur, là. T'sais, je trouvais que c'était moins propre, c'était moins sécuritaire, c'était de plus en plus tough. Puis là, j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers un soleil radieux avec ce que tu me dis là.
Non, puis il faut faire attention à ces politiques-là. Les gens disent « Ouais, mais New York est résiliente. Quand je vais à New York, je le vois pas. » Ouais, mais regarde, à un moment donné, c'est inévitable qu'il va y avoir... On a déjà vu des crises fiscales majeures dans les années 70. On n'est pas à l'abri de ça.
Puis c'est quoi l'événement demain avec Pierre Poilievre? Je sais que tu participes. Là. Je sais pas si tu fais la présentation, je pense. C'est quoi exactement?
Demain, Pierre Poilievre, qui est au Texas aujourd'hui, qui était au Michigan au début de sa tournée, qui a annoncé sa politique sur le secteur automobile. Au Texas, il a rencontré des gens d'affaires, le président d'Enbridge. Et là, il s'en vient à New York et jeudi, il va parler devant le Foreign Policy Association, l'association de la politique étrangère, si on veut. Et c'est un groupe de très haut niveau à New York qui va l'écouter sur sa politique, comment il voit finalement les relations canado-américaines, mais aussi c'est un groupe qui va être très focusé sur New York. Donc, ils auront l'occasion de discuter avec lui de ses visions et de sa lecture de ce que le Canada l'avenir du Canada et des relations avec New York puis avec les États-Unis.
Puis je sais qu'il est allé en Europe, t'en as jasé avec Pat la semaine passée, j'étais pas là, mais je me pose la question parce que c'est pas commun au Canada de voir les chefs d'opposition comme ça partir en genre de tournée mondiale. Un, pourquoi il fait? Puis deux, est-ce que c'est... Moi, tu sais, j'ai l'impression que c'est une bonne chose de se faire connaître à l'extérieur, mais est-ce qu'il fait juste pour ça?
Ben, je pense non. Il veut en fait aller à la rencontre et se nourrir de ces conversations-là avec d'autres pays. Il a parlé d'un plan de stocker des minéraux et de l'énergie avec les pays Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne. Il dit on pourra s'alimenter à même ces réserves-là, puis ça nous donne une marge de négociation avec les Américains. C'est aussi pour son profil, bien sûr, de montrer que
Notoriété,
il peut.
Puis...
Exactement, notoriété, puis il sera un bon PM et capable de gérer les affaires internationales. Puis il a vraiment insisté sur l'importance du libre-échange et que son approche est plus réaliste que celle du premier ministre Carney, qui est plutôt idéaliste. Il dit ce n'est pas la bonne voie de tourner le dos à nos voisins américains. Il dit, tu peux pas dire je tourne le dos aux voisins américains avec qui on transige plus de 66 % de nos exportations. Mmh. Pour le substituer avec la Chine ou des pays d'Europe. Il dit, c'est pas réaliste. Il faut réengager les Américains. Alors, il est aux États-Unis en train de réengager les Américains pendant que le premier ministre Carney fait son jogging à Hyde Park dans son voyage ou ses vacances. Je sais plus s'il travaille aujourd'hui.
En Angleterre. Il est pas souvent
en Europe. Donc, ça tranche. Tu sais, Pierre Poilievre même... dit, moi, je le prends de front. Je m'en vais là. Je m'en vais engager avec les Américains. Tu sais, ouais. Le gel entre les Américains et les Canadiens, je le vis dans d'autres dossiers. Ça se répercute. Là, ça a des conséquences extrêmes. Mm. Tu sais,
c'est quand même dommage que Pierre... ne puisse pas profiter du fait que Mark Carney est au Parlement parce que Pierre est très bon pour les répliques, des répliques savoureuses, ouais. D'autant plus qu'il y a un scandale, j'en parlerai plus tard dans l'émission, avec CBC, où CBC a décidé d'ignorer Pierre Poilievre et de ne pas l'inviter sur leur plateau de télé. Là, je vais en parler. Ça fait scandale. Ouais. Mais j'ai entendu dire que Pierre Poilievre allait participer au podcast de Joe Rogan.
Ouais.
Est-ce que c'est...
J'ai entendu dire ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, là. Sur les...
OK.
J'ai pas de preuve que c'est le cas. Okay. Mais bon, disons que, tu sais, Joe Rogan est à Austin, Texas. C'est là que se passe son show. Puis M. Poilievre est au Texas. Alors, je pense que d'ici la fin de journée, on devrait avoir une meilleure idée de ça. Je suis pas sûre que ça va le servir politiquement ici au Canada. Je pense que vous deux, vous allez vous en régaler, sans doute.
Oui. Ben, c'est un gros podcast. Il veut se faire connaître par les Américains, entre autres.
Ouais.
Là,
Je pense qu'il l'avait pris un peu personnel. Je me souviens que Trump avait parlé de lui puis d'une façon totalement, tu sais, je le connais pas, je sais pas c'est qui ce gars-là. On me dit que c'est un faux conservateur. Tu sais, je pense que peut-être qu'il a justement installé un certain discours, au moins laissé une trace aux États-Unis pour que les gens aient un repère de c'est qui Pierre Poilievre.
Ben, aux États-Unis, oui, mais quel impact ça va avoir au Canada?
Ah,
c'est plus risqué. Et combien de gens écoutent ce qu'il est en train de faire aux États-Unis? Ouais. T'sais, avec Mark Carney qui trône dans la popularité et dans les sondages.
Il y a des clips qui vont sortir de ça. Ouais. Je pense que c'est ça qui va devenir plus viral. Je pense qu'il y a bien du monde sur
Twitter.
Peut-être
pas les clips qu'il voudrait. Ah, il y a un risque.
Ah, mais ça, c'est dans sa cour. Ouais.
Ben, parce que moi, là, Pierre Poilievre, pour moi, ça a été le gars qui, pendant l'élection, parlait au nom des Canadiens qui en arrachent, puis il leur disait, tu sais, hope is on the way, il y a de l'espoir. Et il y en a des Canadiens qui ne sont pas capables de faire l'épicerie, tu sais, c'est l'homme du peuple, un peu celui qui prend le temps de les écouter pendant 2 ans sur la route de la campagne, et puis qui connaît leur situation, qui s'est vraiment, tu sais, complètement. Qui a changé, qui sont pas capables d'arriver. Donc, tu sais, pour moi, de le voir aller... Je pense que c'est ça son brand comme chef de parti, comme leader de l'opposition. Donc, je veux voir comment il va ramener ça aux enjeux qui touchent les Canadiens.
Hey, Catherine, en 5 secondes, comment va l'humeur des troupes? Parce qu'on a parlé de Pierre Poilievre. On parle très peu, nous, dans les médias francophones, soit dit en passant, du Parti conservateur. On entend beaucoup parler du Parti libéral. Mais tout ce que fait le Parti libéral, c'est super, puis c'est tout le temps 100 %. Fait que ce n'est que des bonnes nouvelles. C'est pour ça, j'imagine qu'ici, on va continuer à voter libéral plus que jamais. Il y a quand même 3 élections partielles qui s'en viennent. On n'est pas loin d'une majorité. Bon, ben Pierre est aux États-Unis. Il essaye de faire des choses différemment pour d'autres résultats. Mais cela étant dit, l'humeur du Parti conservateur, c'est quoi, toi, tu le ressens comment? On est-tu tous derrière Pierre? On se pose des questions? On n'est pas bien? C'est quoi l'humeur des troupes?
J'ai pas beaucoup de secrets à ce niveau-là. Okay. Je pense que le caucus du Québec est bien soudé derrière leur leader, Pierre Poilievre. Ils sont très expérimentés, ils sont dans les médias, ils ont des enjeux sur lesquels ils ont des convictions très, très fortes. Donc, je ne vois pas de problème là. Sauf que faut pas se leurrer, là. Les sondages sont catastrophiques en ce moment.
Ouais.
C'est le moment de Mark Carney, OK? Mm. Mais tout ce qu'il montre descend. Ouais. Je vous laisse là-dessus.
Mm.
Tout ce qu'il montre descend.
Merci, Catherine.
L'espoir.
What goes around comes around. Merci, Catherine.
Yep.
Salut.
OK.
Bye.
Salut.
Catherine Loubier, qu'on adore. Chroniqueuse, ancienne déléguée générale du Québec à New York et conseillère principale à l'époque de Stephen Harper. Toujours apprécier les lumières de Catherine. On fait une pause. Gary vient s'installer, sera pas là.
Ouellette, en direct.
Radio.